Le temps de l'Avent, pour nous, les enfants de Dieu, est un temps rempli d'espérance, un temps de grande joie, un temps de méditation, une période propice pour nous arrêter, nous préparer spécialement à la parousie, c'est-à-dire à la venue de Jésus-Christ en gloire à la fin des temps. À Noël, nous faisons mémoire de l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme. Que d'espoir et d'espérance nous avons en Jésus-Christ. Mallory nous a préparé une magnifique couronne de l'Avent. Peut-être que Christelle l'a aussi aidée. Donc merci à Mallory de l'avoir préparée. Je vous demande de l'applaudir. Bon, elle n'est pas là, mais... Je vous propose une histoire que certains d'entre vous avaient déjà entendue parce que je l'utilise régulièrement dans les services funèbres. Une histoire qui, à mes yeux, est remplie d'espérance. Les 4 bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait les entendre grésiller. La première dit « Je suis la paix. » Et cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre. Sa flamme diminua rapidement, elle s'éteignit complètement. La seconde dit, « Je suis la joie, mais dorénavant je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. » Quand elle eut fini de parler, une brise souffla, elle s'éteignit. La troisième bougie se manifesta tristement à son tour. « Je suis l'amour, mais je n'ai plus de force pour rester allumée. Les gens me laissent de côté et ils ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même de s'aimer les uns les autres. » Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. Pourquoi sont-elles éteintes? Elles auraient dû rester allumées jusqu'au bout. Alors, la 4e bougie dit « Ne crains rien. Tant que ma flamme brûle, on pourra rallumer les autres bougies, car je suis l'espérance. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les autres. La couronne de l'Avent, avec ses 4 bougies, peut aisément représenter la paix, la foi, l'amour et l'espérance. Ces 4 attributs de Dieu vont de pair, la paix. De nos jours, nous entendons constamment parler de tensions, de guerres, de conflits, de crises diverses. La paix semble être une quête quasiment impossible de nos jours. Depuis le XXe siècle, chaque année, le prix Nobel de la paix est attribué à une personne, à un pays, à une œuvre en faveur de la paix. Est-ce une invention humaine? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Dans l'Ancien Testament, shalom est le mot qu'on utilise pour la paix. Cela signifie prospérité, bien-être et santé. Dans le Nouveau Testament, shalom a une connotation spirituelle. La paix fait partie intégrale du caractère de Dieu. Elle émane de sa présence, de sa nature même. Jésus nous apporte une nouvelle dimension de la paix, une paix que le monde ne peut donner. Le monde s'attend à vivre sans obstacles et sans contrariétés. Cette paix est bien évidemment éphémère. Ce n'est pas ce que Jésus propose. Jésus est venu apporter la paix, le shalom de Dieu. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père et avec nos semblables. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Psaume 32, 1. Je suis intimement convaincue que seul le pardon des péchés nous apporte la paix du cœur. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette paix représente la tranquillité, la confiance et le repos. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Recevons cette paix surnaturelle. L'accusateur, Satan, nous accuse. Il pointe nos manquements et nos faiblesses. Vous connaissez toutes et tous, je pense, cette petite voix qui vient, qui dit « Ah là, t'as fait quelque chose qui n'est pas bien. Ah là, c'est nouveau nul ce que t'as dit. Ah, franchement, honte à toi. Ah, ils vont rigoler. » Eh bien ça, c'est l'accusateur qui vient, qui nous accuse, qui nous abaisse, qui nous montre nos péchés, qui nous montre nos manquements. Jésus-Christ a porté le poids de nos fautes et la douleur de notre condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Cela nous apporte une sérénité incroyable. Quand l'accusateur vient et nous accuse et nous dit à quel point ce qu'on a fait est nul, rejetons ces accusations. C'est des mensonges. Quand il nous rappelle nos fautes, rappelons-lui son futur, où il va passer l'éternité. Si nous nous adressons à Dieu avec confiance, il nous donnera la paix. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera notre cœur et vos pensées, votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix est une bénédiction accordée aux enfants de Dieu. En suivant le Christ, en lui obéissant, sa paix remplit notre cœur. Laissons-le prendre nos fardeaux et tranquilliser nos cœurs. Ésaïe 30:15. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La deuxième, la foi. Qu'est-ce que la foi ? La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. C'est un concept philosophique. Ce terme rejoint également la notion de croyance. En tant que chrétien, nous avons foi en Jésus-Christ. En l'acceptant par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Nous nous reposons entièrement sur lui. Les personnes athées ont vraiment beaucoup de foi. Vous savez, le monde dit « Ah, toi, tu as la foi. » Toi, tu as une foi qui est facile. Mais en même temps, le monde athée, ils ont encore beaucoup plus de foi que nous. Parce que pour croire au Big Bang, pour croire à l'évolution en pensant qu'on vient du singe, ou bien encore pire, il faut beaucoup de foi. Pour croire à toutes ces transformations, il faut une foi énorme. Pour nous, la foi est le moteur qui nous accompagne chaque jour que Dieu fait. Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Certaines traductions traduisent la deuxième partie du verset par la substance des choses qu'on espère, c'est-à-dire le fond, la base, l'essentiel des choses qu'on espère. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi mise à l'épreuve produit la patience. La foi n'est pas une illusion. Nous sommes appelés à entretenir cette foi, à en prendre soin et à la mettre en pratique. Soyons passionnés pour Dieu et son royaume. Apprenons à être passionnés par ce qui passionne Dieu. Et là, je me parle à moi en tout premier. Afin de devenir des personnes passionnantes, fixons nos regards sur Christ, le chef de notre foi. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, disait la chose suivante. Travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière. Le revivaliste John Wesley a dit ceci. Dieu fait tout par la prière, mais il ne fait rien sans elle. Je trouve que c'est tellement excellent et tellement vrai. Psaume 18:4. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. La foi mise en action déplace des montagnes. La parole dit même que si on a une foi comme un grain de moutarde qui est tellement petit, nous déplacerons des montagnes. L'amour, c'est un thème central que l'on voit de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu est amour. C'est l'essence même de son caractère, de sa personne, de sa nature. C'est son ADN. C'est par amour que Dieu créa le monde et le couronnement de sa création, l'être humain. Nous sommes le couronnement de Dieu. C'est impressionnant quand on pense. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Waouh! Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Il existe entre Dieu et les hommes un lien vital et indissoluble. C'est ce qu'on appelle Ah mince, j'ai perdu le mot. Je suis désolée, je suis en train de chercher un mot dans ma tête que je voulais vous dire, et puis tout d'un coup je me dis mince. Il nous invite à l'aimer et à nous aimer les uns les autres. Dieu, étant trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas besoin de notre amour. Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Par contre, il a choisi de nous créer et il a choisi de nous utiliser. Nous sommes le plaisir de Dieu. Il nous a créés pour son plaisir, pour avoir une relation avec nous. Mais il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre amour. Par contre, nous, ses créateurs, nous avons désespérément besoin de son amour. L'amour n'est pas un sentiment ou une émotion, c'est une attitude, un engagement. Jésus-Christ est bien vivant, il est là pour ceux qui se tournent vers lui et leur offre la vie éternelle. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel ni temporaire. Son amour est infini, insondable et incommensurable. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne s'impose à personne. Ceux qui viennent à lui le font en réponse à son amour. L'amour de Dieu est bon envers tout et chacun. Son amour exige aussi l'obéissance. Il n'a pas créé des marionnettes. Il aurait pu se dire, je vais créer des marionnettes qui seront là, qui vont simplement m'aimer, ça serait plus facile. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il nous a créés avec un libre arbitre, la possibilité de le choisir ou de le rejeter. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13, 35. L'amour en parole est bien souvent insuffisant. L'amour, le vrai, se manifeste concrètement par nos actions. Éphésiens 9, 17 à 19. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Les dimensions de l'amour de Dieu, la largeur de son amour, le salut offert en Jésus-Christ la longueur de son amour de toute éternité et pour toute éternité. Il nous a créés avant la fondation du monde. C'est impressionnant quand on pense. La hauteur de son amour, il est libre et gratuit. La profondeur de son amour, jusque dans les plus sombres recoins de notre être. Et le dernier, l'espérance. Voici comment le dictionnaire, le Robert, définit l'espérance. Un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Nombreux sont ceux qui définissent l'espérance comme un vœu ou quelque chose qu'on espère. L'espérance biblique n'a pas la même signification, et heureusement. L'espérance biblique est une attente confiante. C'est la ferme assurance des choses encore invisibles et inconnues. Romains 8, 24 à 25. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Je prie qu'un jour nous puissions tous, dans l'espérance de la gloire à venir, dire « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Mercredi prochain, sous l'impulsion de Francesco, qu'on remercie infiniment, nous allons vivre la fenêtre de l'Avent. C'est une opportunité de vivre concrètement l'amour de Dieu. Être sel et lumière, comme nous l'avons entendu à Juan, un sel qui ne se détériore pas, n'est-ce pas, Francine? Et c'est la lumière pour le village de Recouvillers. Merci de prier pour cet événement et merci à toutes et tous qui s'investissent. Il y a une belle équipe qui se met en route. Je me réjouis de cette soirée. La paix, la foi, l'amour et l'espérance sont des vertus, des attributs essentiels de la nature même de Dieu. Au travers de l'intimité avec Dieu, nous recevons la foi, l'espérance, l'amour et la paix qui en découlent. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.